On va maintenant parler de un peu la réaction du gouvernement du Québec. Parce que pendant que le gouvernement, évidemment, présentement, tout le monde, là, puis la première question que tout le monde pose, c'est comment ça se fait ce gars-là est en liberté? Comment ça se fait ce gars-là a réussi à sortir de prison alors qu'il avait déjà tué sa conjointe? Comment ça se fait qu'il a réussi à recommettre un crime de cette nature-là? Tout le monde est scandalisé. On a parlé en début d'émission au sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Et évidemment, lui-ci pose beaucoup de questions. Il veut même une enquête publique sur cette affaire-là. Il veut même savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui est la personne qui a autorisé la libération, qui est la personne qui a permis à ce que le crime soit... le criminel puisse ressortir puis puisse refaire ce qu'il a fait. Et là, le gouvernement du Québec s'est levé aujourd'hui. C'est la ministre de la Sécurité publique, Sonia Lebel, qui est sortie pour dire que ça n'avait pas de bon sens. Et la ministre de la Justice, pardon. Et le ministre fédéral est toujours pas sorti. Ce qui est bizarre, là. Et parce que tout le monde se dit comment ça se fait qu'on a sorti ce gars-là. Il avait déjà tué sa conjointe. Il a écopé de 12 ans. Alors que sa sentence était de 25. Il était à vie. Il y avait la commission de la libération conditionnelle dit que c'était un risque modéré. Ça veut dire quoi, ce modéré? Puis là, il y a beaucoup de gens aussi qui se posent des questions sur l'argent. Parce qu'il y avait vu Marilyn Lévesque il n'y a pas longtemps. En fait, il y a deux semaines. Puis il avait donné 1 300 $. Comment ça se fait que ce gars-là avait 1 300 $ dans ses poches? Puis là, il était supposé lui donner 2 000 $ mercredi soir. Il y a plein de questions. Enfin, pour en discuter, on va aller rejoindre à l'instant la ministre de la Justice, Sonia Lebel, qui est au bout du fil. Madame Lebel, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous avez aujourd'hui fait une sortie pour interpeller votre homologue fédéral sur ce qui s'est passé, notamment dans le cas de Marilyn Lévesque. Pouvez-vous nous expliquer, grosso modo, là, qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce qui vous interpelle dans cette histoire-là?
Bien, vous avez terminé votre topo en disant qu'il y a plein de questions dans cette histoire-là. Effectivement, il y a plein de questions qui ont l'air d'avoir des réponses apparentes, mais je pense qu'il faut qu'on examine attentivement, analyse la situation puis le processus qui a été suivi, puis qu'on réponde aux questions. Effectivement, à première vue, les raisons pour lesquelles cette personne-là aurait été remise en semi-liberté auraient eu les conditions là, qui circulent ou qui sont véhiculées. Je pense que, compte tenu des conséquences, ça demande qu'on réponde à ces questions-là. La commission de libération conditionnelle fédérale a quand même comme mandat de commission de voir la réinsertion sociale. Mais un de ses premiers mandats et le critère prépondérant, c'est la sécurité des gens.
Bien, j'espère.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, absolument. Donc, il faudrait quand même comprendre qu'est-ce qui s'est passé là-dedans, puis voir s'il y a un ajustement au niveau des outils, aussi d'analyse de facteurs de risque. Les gens qui sont amenés à prendre des décisions dans ces cas-là, sont amenés un petit peu à avoir une boule de cristal, hein, si on veut. Mais cette boule de cristal-là, pour qu'elle soit le mieux éduquée possible, pour pas que ça soit une devinette. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a manqué d'outils? Est-ce que ce sont les décisions, la formation? Vous l'avez dit, M. Duhem, plein de questions se posent. Alors, moi, je me tourne vers mon homologue fédéral, la commission de libération conditionnelle relève, et je lui demande qu'il fasse la lumière là-dessus, qu'il prenne les dispositions nécessaires pour éviter que ça se reproduise.
Parce que là, tout le monde nous dit que la commission de libération conditionnelle l'a échappé. Est-ce que c'est l'évaluation que vous en faites au moment où on se parle, vous aussi?
Ben, je vais être très prudente, puis c'est très difficile à dire, ouais. Puis je vais juste de dire aussi que là, bon, je vais interpeller naturellement en tant que parce que ma collègue, Mme Guilbeault, est absente, est-elle en temps normal. Comme ministre de la Justice, je marche à pas prudent parce qu'il y a quand même un dossier criminel et une cause criminelle qui s'en vient. Et moi, je voudrais pas être celle qui la met en péril.
Non, je comprends.
Donc, c'est difficile pour moi d'analyser la situation à travers ce qui est véhiculé par les médias. J'ai pas l'heure juste, je connais pas la situation exacte. Mais c'est suffisamment sérieux pour que je demande des réponses.
Est-ce que vous réclamez aussi une enquête publique? Parce qu'il y a des gens que présentement, déjà à Ottawa, le sénateur à qui on a parlé un peu plus tôt, c'est ce qu'il nous a dit, qui voulait une enquête publique. Est-ce que ça pourrait faire l'objet d'une enquête publique, cette cause-là?
Bon, à ce stade-ci, on n'a pas à faire cette demande-là. Je pense que la première demande à faire, c'est à M. Blair de se pencher sérieusement sur la question et de faire les analyses nécessaires. Par la suite, on verra l'évolution du dossier. Je ne dis pas que c'est exclu, mais on n'en est pas là. Je pense que la première question, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Puis après ça, on pourra évaluer les prochaines étapes.
L'autre truc aussi qui nous chicote, c'est la commission des libérations conditionnelles ne rend pas public le nom des personnes qui rendent les décisions. Quand il y a un jugement, vous avez été avocate toute votre vie, là, quand il y a un jugement, on sait le nom du juge, il y a une forme de transparence avec le public. C'est quand même des gens qui sont payés avec nos taxes. Comment ça se fait qu'on ne sait pas qui a rendu cette décision-là? C'est-tu normal, ça, selon vous?
Ben, écoutez, l'information est sûrement accessible. Pourquoi, dans ce cas-là particulier, je vais vous avouer, M. Diem, que je n'ai pas la réponse. À première vue, vous avez raison. On pourrait penser qu'il n'y a pas de raison à ce que ces gens-là, leur identité soit protégée de cette façon-là au niveau public, mais je pense que c'est une autre question à laquelle il faudra répondre, effectivement.
Puis l'autre question qu'on se demandait aujourd'hui, c'était les gens qui sont nommés à la commission des libérations conditionnelles, est-ce que c'est des gens qui ont une expertise ou c'est des nominations politiques et partisanes? Et là, malheureusement, on s'est rendu compte que c'était plus le deuxième aspect qui a retenu l'attention. Est-ce que ça pourrait aussi faire l'objet de débats?
Ben absolument. Je veux dire, la compétence des professionnels, parce que ce sont des gens qui doivent juger d'une situation. Ils sont naturellement entourés d'expertise, de professionnels. Ils reçoivent des rapports, il y a des évaluations de dangerosité. C'est un peu les questions qu'on pose au ministre Blair. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire aussi dans la compétence des gens qui prennent la décision? Et bien, pour moi, loin de moi de dire que dans ce cas-là, c'était la compétence de la personne qui est en jeu. Je pense qu'il faut faire l'analyse, mais ce sont tous des points qu'il faut examiner. Peut-être que c'est la formation de ces gens-là. Donc, plutôt que la nomination... On le voit, moi, dans mon comité, au niveau de l'accompagnement judiciaire des personnes victimes de violences sexuelles ou de violences conjugales, ben l'éducation, la formation des intervenants est extrêmement importante. Ça prend une formation continue aussi. Donc, ce sont les questions que devront se poser le ministre fédéral, mais on devra, par contre, pour voir où a été la difficulté ou la faille ou la lacune dans ce dossier-là. Il faudra analyser la situation pour bien la comprendre. Là.
Je veux terminer en vous parlant de prostitution de façon générale. Vous savez comme moi que c'est le plus vieux métier du monde puis qu'on n'arrêtera pas ça demain à veille, même si vous êtes ministre de la Justice, peu importe les lois que vous allez passer. On vient de décriminaliser le cannabis au Canada. Est-ce que pour la sécurité des gars et des filles qui travaillent dans cette industrie-là, on ne devrait pas commencer à avoir un débat de société au Québec et au Canada sur le fait de légaliser cette profession-là ou à tout le moins la décriminaliser?
Bon, présentement, au niveau criminel, c'est pas la personne qui exerce cette profession-là qui est criminalisée. C'est la personne qui l'exploite.
Mais c'est encore pire. Ça veut dire qu'il vit encore plus dans le clan. Il est encore plus clandestin quand il va chercher une prostituée.
Et voilà, mais on doit se poser la question. D'ailleurs, la commission, il y a une commission qui se penche à Québec, qui est sous la direction de mon collègue Yann Lafrenière, qui regarde tous ces angles-là également. Là. Il y a l'éducation, il y a l'accompagnement. Pourquoi certaines personnes décident d'y aller de façon volontaire? Beaucoup ils sont exploités, mais ils ne sont pas de façon volontaire. Donc, tous ces angles-là sont examinés. Effectivement, il faudrait examiner ces angles-là, puis par la suite, selon les recommandations de la commission, voir s'il faudra faire des représentations fédérales au niveau du code criminel.
Sonia Lebel, c'est malheureusement tout le temps qu'on a, mais j'aimerais ça qu'on se reparle de réforme démocratique bien très près prochainement.
Ben, j'aurais aimé ça aussi.
Parce que là, aujourd'hui, c'est un dossier d'actualité. Je ne peux pas vous en parler parce que tout le monde parle de cette pauvre fille qui a été sauvagement assassinée à Québec cette semaine. Mais on va se reprendre. Sonia Lebel, ministre de la Justice, merci beaucoup de nous avoir parlé.
Ben, ça m'a fait plaisir. Merci.
Bon week-end.